France Inter, 13h30, la marche de l'histoire, c'est avec Jean Lebrun qui nous parle ce matin de Camille Claudel.
Nous tissons la trame de l'histoire.
Camille Claudel.
Ma fille n'a pas attendu de rencontrer Monsieur Rodin pour exister. N'oublie jamais que nous sommes les Claudel et que nous sommes différents.
Nous sommes les Claudel. Camille, l'aînée de Paul, est née il y a 150 ans précisément. Elle a sculpté très tôt. L'excellent musée de Roubaix, la piscine, lui consacre d'ailleurs une grande rétrospective jusqu'au début du mois de février. 80 pièces, soit la quasi-totalité de son œuvre. Celle-ci est considérable, mais elle aurait pu être plus grande encore si le dérèglement mental, puis l'internement de Camille, ne l'avait interrompu. Paul avait réussi à mettre l'ordre de la religion entre lui et sa tentation des extrêmes. Pas Camille. Surtout, il y avait eu Rodin, le maître et l'amant, dont elle s'était violemment écartée depuis 1893. Lui, il était habile à contourner les drames, pas elle. L'histoire de Camille est caractéristique de son époque. Il était bien difficile, il y a un siècle à Paris, pour une femme singulière, de trouver une position sociale. Certes, elle avait commencé à être reconnue lors de son internement en 1913. Elle fut même un peu défendue, mais la Grande Guerre vint et elle mourut pendant la suivante, enfermée depuis 30 ans.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Anne Delbé, bonjour.
Bonjour.
Judith Cladel, grande journaliste féministe dans l'entre-deux-guerres, avait pris la défense de Camille internée, mais l'époque n'était pas favorable. Quand vous avez publié un livre qui s'appelle « Une femme » et qui a fait date, même s'il est parfois rayé des bibliographies aujourd'hui, l'époque était plus attentive. Mais c'est de très loin que date, sans que vous en soyez aperçu, votre rendez-vous avec Camille.
Oui, on vient d'entendre la voix de Cuny. Et je suis toujours émue quand j'entends la voix de Cuny, parce que c'était les représentations de Tête d'Or. J'avais 12 ans et demi et je suis tombée totalement fascinée par Alain Cuny, par Tête d'Or, par Paul Claudel, par Barreau, par le théâtre. Et on m'a poussée dans la loge d'Alain Cuny et il s'est produit une rencontre entre la petite fille que j'étais, parce que j'étais vraiment une petite fille, et ce géant qui m'a dit, avec cette voix inimitable, « Venez me voir quand vous voulez ». Donc j'étais chez lui toutes les semaines. Il m'aurait dit de le suivre au bout du monde, j'aurais fait.
Mais vos parents n'étaient pas très prudents.
Non, mais au-dessus de sa table, il y avait la photo d'une jeune fille. Et je ne dormais pas, les amours d'adolescents sont terribles, en disant « Qui c'est cette jeune fille? Ça doit être sa fiancée ». Et je la trouvais tellement belle.
Alors depuis votre livre, on a beaucoup avancé dans le commerce de Camille, à tous les sens du mot, dans la connaissance de l'œuvre aussi, avec plusieurs livres, dans la lignée du pionnier, le regretté Jacques Cassard, avec une exposition actuellement au musée Rodin, et puis une journée d'études, ce 25 octobre. C'est un très beau titre que celui de cette journée, « Danger et nécessité de l'œuvre ». Vous avez retrouvé un texte que dès 1978, bien avant la parution de votre livre, vous aviez consacré au duo du frère et de la sœur.
Oui, c'était quand j'ai monté la ville, la première version « Rencontre de Brangue ». Et j'avais mis « La sœur ». Un jeune homme se tient debout, dressé dans le vent de Paris. Paul Claudel a un peu plus de 20 ans et Camille, la sœur téméraire, la sculptrice, le regarde. Combien de fois ai-je pensé à ce jeune homme et à sa sœur, violentes l'un et l'autre, séparées, se retrouvant quelquefois à la table familiale, pétrissant Paris, de leur chemin divergent, elle prenant de la glaise informe entre ses mains afin de lui donner le souffle, lui rendant au verbe toute sa chair flamboyante.
On va entendre le verbe de Paul Claudel, sont les mémoires improvisées avec Jean Imbrouche en 1951. Il parle du vent du village, du Tardenois, Villeneuve-sur-Fère, où est la maison de famille.
Quels étaient vos liens dans votre enfance avec votre sœur Camille?
Comment?
Quelles étaient vos relations avec votre sœur Camille?
Ah, car ben, c'est la seconde ça, il faudrait de la vous famille. Dépeindre la famille Claudel, qui était une famille très particulière, très renfermée, vivant beaucoup sur elle-même, d'une espèce d'orgueil farouche et hargneux. N'est-ce pas? Nous étions un petit clan qui nous trouvions immensément supérieurs à tout le reste. Et nous nous disputions énormément. Et puis alors s'est produit le cataclysme dans la famille. Ma sœur, trouvant qu'elle avait une vocation de grande artiste, ce qui était malheureusement vrai, n'est-ce pas, ayant découvert de la terre glaise, elle avait commencé à faire des petites statues. Alors, ma sœur, qui avait une volonté terrible, a réussi à entraîner toute la famille à Paris. Elle a voulant faire de la sculpture, moi, ce qui paraît, ayant une vocation d'écrivain, ma sœur, mon autre sœur, de musicienne. Enfin, bref, la famille s'est séparée en deux. Mon père est resté à Vassy et nous, nous sommes allés à Paris, boulevard Montparnasse, où nous nous sommes installés.
La région de l'enfance, c'est le Tardenois. Ça ne ressemble pas du tout à la représentation que le Conseil général de l'Aisne donne actuellement dans le métro, avec des affiches qui sont apposées sur tous les murs. Dans les mémoires improvisées avec Amrouche, Claudel dit « ça ressemble au haut de Hurlevent ».
Absolument, oui, oui. C'est très bien décrit dans la fin de Tête d'or, d'ailleurs, cette espèce de plateforme d'où l'enfant Claudel regardait le monde. Avec le vent terrible, et on ne sait pas pourquoi en haut de cette butte du Gien, c'est-à-dire le géant, la hauté du diable, on appelle ça la hauté du diable. C'est un chaos de rochers avec une plage de sable blanc tout en haut, on ne sait pas d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé là.
Et on sait, alors, ce ne soit votre imagination qui fonctionne, mais l'imagination devient de l'histoire parfois, que le petit frère, petit Paul, et la grande sœur aînée, la main dans la main, deux génies, grimpaient sur le chaos.
Oui, il y a quelques fois, j'aime bien quand même plaisanter, mais c'est vrai que quand j'ai imaginé ça, et avant pour la télévision, on avait tourné un film dans l'endroit, j'ai imaginé un peu le frère et la sœur dans ce chaos de pierre qui ont pu inspirer Camille, puisque je me souvenais de mon enfance, où on voit les choses beaucoup plus grandes et tout. Puis après, j'ai vu que c'était devenu historique. Puis c'était peut-être historique, en fait, on ne sait pas.
Mais vous-même, vous avez fait du théâtre et de la mise en scène à 13 ou 14 ans, accompagné par Patrice Chéreau. On se fait des promesses à cet âge-là, qu'ensuite il faut tenir.
Je pense que c'est, enfin pour moi en tout cas, c'est l'âge le plus vrai de toute sa vie. Et la difficulté, c'est quand on vieillit, c'est il faut y retourner pour être authentique. Et je pense que la promesse que s'est fait Camille et Paul, parce que Paul écrivait déjà, c'est ce qu'on oublie. Il a écrit à 7 ans L'Endormi, que j'ai monté, où il raconte déjà qu'il va devenir un grand poète, que les mots se pressent comme des cochons qui sortent de sa bouche, et fasciné par la Strombo, la femme idéale, qui effectivement, la seule femme qu'il a à ses côtés, c'est Camille à ce moment-là.
Il est avec Camille à Paris, au début des années 1980, le père, très important dans leur histoire, restant en retrait. Et Camille, pendant que lui est à Luynes-Grand, vous avez fait vos débuts de théâtre.
Oui.
Elle va entrer dans les ateliers de sculpture et dans le meilleur, celui de Rodin. On peut dire qu'en 84, elle choisit de se mettre sous l'autorité de Rodin.
Non, on ne peut pas dire ça. C'est d'abord... C'est toujours étrange dans les années passées et dans les années futures, je pense, pourquoi tout d'un coup, quelqu'un totalement qui n'avait aucune chance de devenir ce qu'il est, prenons Racine à la Ferté-Milon, il n'y avait aucune chance qu'il devienne le grand Racine, prenons Camille, comment tout d'un coup une petite fille décide absolument qu'elle va devenir sculpteur et arrive à changer l'époque. Pour ça, vous savez, je ne suis pas antiféministe, mais ça se change autrement, c'est-à-dire... C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une victime, c'est une héroïne. Quoi. Et là, les beaux-arts sont interdits, donc elle va dans un atelier de femmes, où je pense qu'elle a beaucoup trépigné. D'ailleurs, elle l'a dit qu'elle ne supportait plus ses compagnes, qui, elle, ne faisait pas de la sculpture. Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai juste une anecdote, Barreau m'a dit « de toute façon, tu te marieras ». Et je pense que c'est ce qu'elle devait entendre quand je voulais être metteur en scène. Et par hasard, c'est... aussi le hasard de la vie, fait que Rodin va remplacer un de ses professeurs. Et je pense que c'est d'abord le coup de foudre des deux, plus que de suivre un maître, puisque Rodin n'était pas connu à l'époque.
Alors évidemment, on dit la première partie de son œuvre est influencée par Rodin. On pourrait peut-être prendre les choses à l'envers, quand elle devient la maîtresse clandestine de Rodin, qu'elle joue un rôle important dans son atelier. Est-ce que l'art de Rodin en a été transformé?
Ah, moi, je pense pas, c'est évident. De même qu'elle, elle a pu aboutir son œuvre peut-être à cause de la maîtrise qu'elle a appris chez Rodin. Mais déjà à 12 ans, Jules Desbois, quand il voit ses premières sculptures, qui étaient Napoléon et Bismarck, des sujets pas féminins, comme on dirait à l'époque, dit « c'est drôle, on dirait que vous faites du Rodin ». Rodin est connu jusque, pas du tout, mais des milieux interprofessionnels, on pourrait dire, des sculpteurs entre eux qui savent qu'il y a un jeune sculpteur qui a fait, fait un scandale, puisque l'homme qui marche, qui n'a rien à voir avec ce que fera Rodin plus tard, on l'a accusé de surmoulure, et donc Rodin a déjà fait parler de lui parce qu'on trouvait que sa sculpture était tellement immense qu'on a cru que c'était une surmoulure. Donc il y avait comme ça un petit vent autour de Rodin, mais pas plus que ça, quoi.
Et vous voulez dire que le souffle, c'est Camille ? Et on a dit aussi, c'est grâce à Camille que Rodin atteint le tragique. Ouais. Les bourgeois de Calais réalisent ça pendant que Camille est dans son atelier.
Je dirais ça, c'est-à-dire que Rodin, moi ça m'énerve, vous savez, quand on dit elle était plus grande qu'eux, ou ils lui ont tout pris, je trouve ça d'une stupidité. Je trouve que, et Claudel est un des plus grands génies, Rodin est un des plus grands sculpteurs, et elle, un des plus grands sculpteurs. Mais c'est évident que, comme les artistes se transmettent des choses, j'ai l'impression que, quand on voit la sculpture avant qu'il rencontre Camille Claudel, elle lui a donné ce souffle, effectivement, qu'il n'avait pas, et qui peut-être il n'a jamais eu réellement, c'est pas une qualité, hein, c'est peu, je ne sais pas, c'est une, mais le souffle tragique, c'est-à-dire la tragédie.
C'est-à-dire que Claudel, qui prenait le parti de sa sœur, disait « Rodin, c'est un myope, il voit que les choses qui sont
non,
grosses ».
Ça, c'est, et puis, ça, c'est la jalousie fraternelle.
Il a dit, Paul Claudel, il a une vieille maîtresse, et cette vieille maîtresse assure à Rodin la parfaite sécurité d'habitude que ma sœur extrêmement violente ne peut évidemment pas lui donner. Nous sommes ici au moment où la rupture est déjà intervenue. En 1895, Camille a sculpté l'âge mûr où on voit Rodin partagé entre la commodité à gauche de sa vieille maîtresse et l'ardeur de Camille qui, nue à genoux, tend les bras vers lui.
J'entends suivre mon chemin à moi. J'ai acquis ce droit.
Non, si ton chemin te donne le droit de me ridiculiser comme ça ou de me détruire, alors tu dois y renoncer. Tu me représentes comme un pantin désarticulé par deux femmes. Cette caricature est ignoble. Quelles que soient tes idées, tu dois me les soumettre. Il n'y a aucune comparaison entre toi et moi.
Quoi ?
Aucune ! Tu es un sculpteur de troisième ordre.
Mais tu t'attaques drôlement violemment à un sculpteur de troisième ordre.
Tout vient de moi, rien de toi.
Tu veux m'expliquer pourquoi tu es si jaloux ?
Jaloux ?
Oui ?
Jaloux, moi ? Tu te représentes comme une victime, comme une martyre. Mais c'est toi qui es parti. C'est toi qui m'as quitté.
Mais c'est impossible de vivre avec toi.
Moi, j'ai toujours ressenti la nécessité pour nous de vivre sur un pied d'égalité.
Mais tout le travail que j'ai fait pour toi était bien. Mademoiselle Claudel, l'élève de Rodin, Mademoiselle Claudel fait du Rodin, Mademoiselle Claudel ramasse les miettes du maître pour les fourrer ensuite dans sa sculpture. Mais c'est ça que tu as laissé faire, c'est ça que tu as laissé dire.
Finalement, tu es ma pire ennemie. Je te découvre.
Mais tu m'as tout volé ! Tout ! Ma jeunesse, mon travail, tout !
Adjani, Camille et Depardieu, Rodin, dans le film de Bruno Nuitten de 1988. Elle trouve sa voie, en fait, après 1893. Elle travaille seule, et Rodin, d'ailleurs, dans les dernières années, l'aidera. Le Robert, important le Robert, dit d'une ligne, sa production ultérieure devient plus classique.
D'abord, si vous me permettez, je dirais qu'elle l'a trouvé avant sa voix déjà. Les sculptures d'avant, d'abord Rodin l'a vu tout de suite. Il a dit, il l'a fait travailler avec elle parce que c'est un immense sculpteur, comme il faisait travailler Bourdelle et d'autres. Elle avait déjà trouvé sa voix extraordinairement, la Clotho. Enfin, bon. Puisqu'on parlait de l'âge mûr, ce qui est très étrange, c'est que toutes les sculptures de Rodin et de Camille peuvent être décalquées, sauf une fois qu'elle l'a quitté. C'est-à-dire qu'on parlait de l'âge mûr. Si vous mettez l'âge mûr sur le Victor Hugo, c'est exactement la même structure. Sans dire si l'un a copié l'autre. Sauf la fille à la gerbe où vraiment Rodin a pris la sculpture de Camille pour la copier. Il l'a avouée comme telle. Bon. Mais après, elle va vers autre chose. Elle va vers une sculpture tout à fait nouvelle qui est intimiste, qui est la réalité de la vie. Elle cherche ça, ce qui n'intéresse absolument pas Rodin. Et donc pas du tout classique, au contraire, quelque chose comme les quatre petites femmes qui bavardent et tout. Alors moi, Vous savez, dans mon livre où personne encore parlait de Camille Claudel, j'ai dit d'autres viendront. Et j'ai su que j'avais réussi mon pari. C'est cet été, parce qu'enfin, au lieu de parler de l'internement de Camille, de la, cette immense exposition de sculpture des papesses à Avignon, on a vraiment vu l'œuvre de Camille Claudel et l'œuvre d'un grand sculpteur. C'est ça qu'il faut dire sur elle.
Elle était reconnue quand même déjà.
Absolument,
mais
tout le monde. Mais même pendant qu'elle était avec Rodin, tout le monde savait que c'était... Elle avait les premiers prix, tout le monde savait que c'était un très grand sculpteur. Mais ce qu'elle a dit, même moi qui suis absolument reconnue, on ne me commande pas le monument aux morts à Villeneuve. Et la valse, ça fait un scandale.
Alors la valse, c'était un projet de commande de l'État, mais l'inspecteur, dites-vous dans un texte à paraître, Requiem pour Camille Claudel, l'inspecteur des Beaux-Arts dit « Mais c'est pas acceptable, c'est un surprenant mélange d'expression et de sensualité qui exagère la nudité de tous les détails humains. »
Mais je crois que rien n'a changé aujourd'hui. Je dis que si quelqu'un, une femme, ce qui est ma tentation en tant que metteur en scène, faisait l'origine du monde... Elle se retrouverait. C'est pas évident de toucher à l'érotisme masculin quand on est une femme, et c'est, à mon avis, ce qu'a fait Camille Claudel.
La petite drôle femme au fond de l'atelier du grand monsieur Rodin. La petite drôle de dame en habit d'écolier ignorait le dédain. Et faisait sourire une âme aux lèvres de granit au milieu du grand vide, où le temps sculpte des rides aux étangs de champagne et au fond d'Aphrodite. Oh, monsieur Rodin, le feu, je veux pouvoir l'enfermer dans la pierre. Oh, monsieur Rodin, mes yeux, pourquoi me font-ils mal le soir sous mes paupières? La mort, je n'ai pas peur d'elle, mais j'ai peur que l'amour nous oublie en chemin. Nous, les amants immortels, toi, Auguste Claudel, moi, Camille Rodin.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Camille Claudel, selon Serge Reggiani, selon Anne Delbé, qui est l'invitée de la marche de l'histoire, Anne Delbé, qui a un quart de siècle, publiait un livre levier, Une femme. Votre dernier texte consacré à Camille dit ceci. Je suis un sculpteur, je ne suis pas aliéné, je suis une femme qui ose, je ne suis pas abandonnée, je suis à jamais l'amante entre les bras de l'homme, je suis le baiser. Pardonnez mon esprit rationnel. Anne Delbé, elle était quand même un peu atteinte dans les années d'après 1905-1906, quand son œuvre, avec Niobid, s'arrête à peu près, qu'elle brûle et détruit, plus qu'elle ne sculpte dans son grand atelier de plus en plus sale et abandonné de l'île Saint-Louis.
Pour en venir à Cuny, Cuny a... Une des après-midi où je le voyais, m'a dit quelque chose. Il m'a dit, vous savez, Anne, Claudel s'est préservé. C'est pour ça qu'il a pu finir son œuvre. Et ça m'est toujours resté. C'est pour ça qu'il a pu écrire. Et dans ma propre vie, Camille m'a sauvé la vie. Parce qu'à chaque fois que j'allais verser dans trop d'émotions, mais je maintiens que c'était pas du tout inaliéné. C'est-à-dire, je me suis énormément intéressée à Michel-Ange. C'est, je pense que quand on a une œuvre habitée, il y a forcément un moment donné où elle est trop habitée. Et alors, qu'est-ce que c'est l'aliénation? Moi, pour moi, l'aliénation, c'est de manger à table en rond du début. C'est ce qu'elle a fui. Comme dit Claudel dans Tête d'or, le bouilli était là d'être mangé en rond. Pour moi, ça, c'est ce que je vois aujourd'hui dans la société, ça, c'est d'être aliéné. Mais la flamme, la folie, au sens où on dit la folie, mais ce n'est pas une folie, c'est au contraire de voir l'invisible. Et effectivement, ben la société, il y a un moment donné, elle la comprime parce que c'est trop violent pour une société. C'est comme de voir la face de Dieu. Donc la société ne peut pas voir ça. Et à partir du moment où on continue à c'est comme Saint Jean de la Croix, finalement. Alors, où on est... où on se maintient et on se tait. Moi, ce que j'ai appris à faire de plus en plus, c'est-à-dire On se dit, bon, attention, parce que, comme m'avait dit un ministre de la Culture, Anne Delbé, arrêtez, parce que vous allez devenir aussi folle que Camille Claudel. Et ça m'a stoppé parce que je réclamais de l'aide, des subventions. Ou alors, effectivement, et en plus, comme elle n'avait plus son matériau, elle a été de plus en plus vers l'imaginaire, vers la... Et c'est insupportable.
Oui, parce que lui manquait l'argent. Tout de même, refuser de manger en rond, mais se faire livrer la nourriture par la fenêtre parce qu'on ne veut plus sortir. Il n'y a pas que la société, il y a d'abord les voisins qui se plaignent et puis la famille.
Absolument, oui,
qui doit prendre ses responsabilités, dira tout le temps Paul, et qui signe une demande de placement volontaire. Le placement, ce n'est pas volontaire. Dans ces cas-là, en 1913, elle est saisie, transportée à Villebras. Et la Grande Guerre va lui être fatale, parce que ceux qui s'occupaient d'elle, il y avait un journal de l'Aisne, un journal à Paris, la Ligue des droits de l'homme, même au début de 1914, a évidemment d'autres soucis quand la guerre se déclenche. Et puis elle est éloignée de Villevrard et se retrouve à Mondevergue, du côté d'Avignon. Un extrait du dernier très beau film consacré à Camille par Bruno Dumont, avec Juliette Binoche dans le rôle de Camille.
Ah, pourquoi je suis ici, moi ? Prends-moi, enlève-moi d'ici, ils ont essayé de m'empoisonner.
Camille, que crois-tu ? Que faisons-nous, maman, Louise et moi ? Nous faisons tout pour que tu ailles mieux. Nous t'offrons les meilleurs soins, nous te payons la meilleure pension alors que notre pays est en guerre.
T'es injuste.
Je ne cesserai d'être injuste qu'en cessant d'être sincère.
Tu sais que t'essayes de me soulager. T'as des charges extraordinaires, tu fais des efforts pour moi. Mais tu sais, ici, c'est très difficile de vivre. Tu comprends, Paul ? Il y a trop de bruit. Tu sais, je voudrais regagner Villeneuve. Je comprends pas pourquoi vous voulez pas me reprendre. Tu devrais dire à maman de venir me voir. J'aimerais bien la revoir encore une fois. Tu lui diras ?
Je vais te laisser, Camille.
Oui. Peut-être la guerre finie, je rentrerai parmi vous.
La mère, en fait, 75 ans à l'époque, elle veut surtout couper les ponts, ne pas recevoir des avis d'amis qui auraient été alertés par la correspondance de Camille. Elle l'a fait isoler. Elle a fait aussi passer de l'internement de première classe à l'internement de troisième classe, jusqu'à ce que plus tard, Paul rétablisse un peu l'équilibre.
Ben, elle pose la vraie question de... Qu'est-ce qui se passe chez un artiste ? Pourquoi Verlaine se met à boire ? C'est pas bien. C'est pas bien de boire comme ça.
Le dossier médical qui a été redécouvert dit d'ailleurs que Camille a un peu d'embonpoint et qu'elle boit sûrement.
Qu'elle boit, oui, on a dit.
Mais elle ne se masturbe pas, dit le dossier.
Oui, vous voyez, Michel-Ange, il ne se lavait plus, il ne voulait plus voir personne, et, alors qu'il pourrissait presque sur place avec sa jambe fêlée, et qu'on ne voulait plus retirer la botte. Enfin, moi, je suis fascinée par comment ces génies peuvent avancer. Je ne dis pas vieillir, c'est le contraire, avancer dans leur imaginaire. Il y a quoi la boisson, la folie, le Nerval se pend, ou la bourgeoisie et la gloire, Claudel, comme ça au moins ça maintient. Et on peut continuer à Picasso.
Picasso, vous le mettez du côté
de Claudel. Oui, c'est-à-dire que la commande,
les clients,
on fait un pacte avec la société. Mais si on ne peut pas faire de pacte, parce que moi, ce qui m'a toujours paru étrange, c'est la fin de Camille, puisqu'on parle, et je trouve que le film de Bruno Nuitten retrace ça, c'est comment elle ne s'est pas pendue. Elle devait avoir une sacrée vie intérieure, je trouve, pour...
Je crains que vous ne parliez du film de Bruno Dumont.
Oui, Bruno Dumont, je cherchais Bruno Dumont. Oui, oui.
À Saint-Paul de Mauzol.
Et puis je ne vois pas comment elle pouvait boire. Elle
de
pouvait
malade pas... Manteau qui a collaboré de très près avec le film.
Je vous dis tout de suite qu'elle ne buvait pas à l'asile parce qu'elle disait que c'était immonde, c'était du vinaigre.
Alors Paul lui a rendu une bonne douzaine de visites parce qu'elle était un remords en même temps qu'une menace pour lui.
Visite tout à l'heure à ma pauvre sœur Camille. Dans le fond, je suis persuadé que, comme la plupart des cas dits de folie, le sien est une véritable possession. Il est bien curieux, en tout cas, que les deux formes soient l'orgueil et la terreur, délire des grandeurs et délire de persécution. Ça a été une grande artiste, et son orgueil et son mépris du prochain étaient sans limite. J'ai tout à fait le tempérament de ma sœur, quoique un peu plus mou et rêvasseur. Et sans la grâce de Dieu, mon histoire aurait été la sienne, ou pire encore.
Ma pensée ne peut se détacher de la visite suprême que je viens de faire à ma pauvre sœur Camille, dans la cité de douleur où depuis 30 ans elle consume une existence informée. Maintenant elle a près de 80 ans, et dans un dernier éclair de raison, elle s'est souvenue de moi. Elle va mourir, elle m'appelle. Je baise cette figure terrible et cependant, comment dirais-je, illuminée. Ce front puissant, dont l'âge a dégagé la majesté, et où le malheur ni la maladie n'ont pu effacer la marque auguste du génie. Elle est contente de me voir, et cependant je la dérange. Elle a hâte de revenir à ces choses importantes où elle est engagée.
Journal de Paul Claudel, 21 septembre 1943. À l'époque, il est engagé dans la traduction du Cantique des Cantiques. L'Esprit Saint me cache sans doute des choses, et je dois me taper la tête contre le mur. C'est à devenir fou, dit-il, et puis il prépare avec Barrault les spectacles du soulier de
satin. Le soulier de satin, où il y a quand même ce personnage de Camille, le renégat extraordinaire, et qui finit par cette phrase « Délivrance aux âmes captives ». Je suis toujours émue par cette lettre, par cette vision de ce poète en face d'un génie, parce que c'est ce qu'il dit, je suis en face d'un génie dont je n'ai pas été à la hauteur, quelque part. Mais je sais que c'est un génie, mais il ne garde pas sa distance, il est devant une énigme divine. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le don? Qu'est-ce que c'est ce génie qui est tombé sur cette famille? Et elle, au sens vraiment du génie, comme on peut dire Mozart du génie, c'est-à-dire, il l'a souvent dit, c'est une malédiction. C'est une sorte, là, on revient à la tragédie grecque, comme si c'était une malédiction. Et il a dit, moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que j'ai des grosses chaussures attachées à la terre parce que je ne voulais pas devenir comme Rimbaud. Et pour lui, sa sœur, c'était plus proche de Rimbaud que de sa sœur, finalement. C'était cette vision de qu'est-ce que c'est que d'être un être habité, quoi. C'est là la réponse qu'a donnée Camille, à mon avis, c'est sa sculpture. Vous savez, il y a cette chose qui m'a toujours émue. Un jour, Michel-Ange, à la fin de sa vie, qui avait sculpté ce Christ, une des dernières sculptures, son ami Pietro l'a trouvé, il était en train de fracasser la sculpture en disant « Pourquoi tu ne me réponds pas ?» Et je pense que voilà, l'énigme de Camille, c'est qu'est-ce qu'elle a cherché toute sa vie? Et je pense que c'est ça qui l'a fait tenir les 30 ans d'asile.
Elle meurt donc le 19 octobre 1943.
Elle dit « C'est vous qui êtes fou » quand même dans une lettre.
Elle est inhumée dans un caveau collectif. Paul se préoccupe trop tard de cette sépulture et on n'a pas retrouvé son corps. On ne pourra pas la mettre au Panthéon. Après la sortie du film de Bruno Dumont, j'ai entendu plus d'une fois dire « C'est Paul qui aujourd'hui serait enfermé ». Comme quoi la société ne tolérait pas Camille en 1913, elle ne tolère pas Paul en 2013.
Il a failli devenir fou. C'est parce qu'il a pu poursuivre son œuvre, à mon avis, qu'il s'est apaisé. Comme il disait à Barrault, je vais à la messe, ça m'apaise. Et elle, personne n'a pu l'apaiser.
Merci à vous, Agnès B. Votre livre est toujours disponible en édition de poche. Et l'exposition rétrospective de Camille Claudel est visible jusqu'au 8 février dans l'excellent musée de Roubaix, La Piscine.